Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci d'être à l'écoute de Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement, les phases locales des assises nationales de la refondation n'ont pas débuté ce lundi 22 novembre 2021. Une situation que déplorent les habitants de certaines localités. Un cadre de concertation entre les acteurs scolaires s'est tenu vendredi à Ségou. L'objectif est de mettre en place des stratégies pour la réouverture des écoles fermées à cause de l'insécurité dans la région. Notre dossier du jour s'intéresse aux conséquences de l'insécurité sur la foire hebdomadaire de Yorosso. Ce marché est de plus en plus boudé par les forains de plusieurs localités. Une situation qui provoque la rareté et la cherté des denrées de première nécessité. Je suis Hamsetou Touré à la présentation, à la mise en onde Mamadi Keïta. Les phases locales des assises nationales de la refondation n'ont pas débuté ce lundi 22 novembre 2021, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement la semaine dernière. À l'intérieur du pays, certaines populations attendent impatiemment le début de ces concertations. Elles regrettent que celles-ci ne soient toujours pas tenues dans les localités. Aussi déplorent-elles qu'aucune raison ne leur a été avancée. Reportage signé Khalifa Goïta.
À Koulikoro, on ignore encore les raisons du retard pour la tenue des assises locales. La société civile s'inquiète que l'organisation de ces rencontres ne soit bâclée. Abdoulaye Guino, chargé de la jeunesse au conseil communal de la société civile de Koulikoro.
Plus les choses sont reportées, les gens sont démunis. Le gouvernement n'arrive pas à faire une vraie sensibilisation, alors que c'est plus qu'une nécessité. Il ne faut pas que ça soit bâclé, parce que si c'est bâclé aussi, la préoccupation réelle de la population malienne ne sera pas prise en compte.
À Gao, au nord du pays, c'est le même constat. La présidente de la CAFO de Gao, Lala Maïga, affirme que des assises bâclées au niveau local vont se répercuter sur les assises nationales.
On n'a rien vu pour le moment. Nos attentes, c'est la transparence et surtout l'information et la communication. Et ils disent qu'ils vont passer de la base pour monter en haut. Ça n'a pas été fait. Ça nous choque aujourd'hui parce que nous avons notre mot à dire.
Pour la société civile de Ségou, il n'est pas encore trop tard pour tenir les assises locales. Cependant, elle estime qu'il faut s'entendre sur les thématiques prioritaires à débattre au cours de ces rencontres. Modibo Omar Koulouali, secrétaire général de la société civile de Ségou.
On peut arranger un retard d'un jour. Je crois que ça ne peut pas trop impacter. Il s'agit de réfléchir sur des documents. C'est pour débattre ça, on peut coincer ça dans un temps record.
Les assises nationales de la refondation doivent commencer par les phases communales et régionales. Les discussions et recommandations issues de ces débats doivent être remontées pour la phase nationale prévue à partir du 26 décembre. À ce stade, plusieurs partis politiques et regroupements annoncent qu'ils vont boycotter ces assises.
Notons que nos tentatives pour faire réagir le ministère de la Refondation sur la non-tenue des assises locales ce lundi sont restées sans suite favorables. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les organisations de la société civile regroupées au sein de la Synergie 22 invitent les autorités au respect des engagements internationaux. La Synergie 22 demande également un chronogramme clair et réaliste pour définir la période des réformes et des élections. Ces responsables étaient face à la presse samedi dernier. Pour les acteurs de la société civile, il est important qu'un large consensus soit bâti autour des assises nationales de la refondation. Le point avec Kouandia.
Pour le directeur du consortium ELE, Citoyenneté et Droits Humains, Mamadou Lassine Diarra, la réussite de la transition est plus que capitale pour tout un chacun.
Notre objectif d'abord, c'est de faire le monitoring et alerter par rapport aux réformes en cours, les avancées, identifier les points de blocage et les signaler afin que les autorités aient une vision plus large. On a tous intérêt que cette transition réussisse pour le Mali. Mais il ne faudrait pas que dans notre volonté de réussir la transition, qu'on oublie aussi les engagements internationaux auxquels on ne peut pas se soustraire.
Cependant, il faut un large consensus autour des assises nationales de la refondation afin de mener à bien les réformes institutionnelles et électorales, indiquent les organisations de la société civile. Foussine Diop, membre de l'Association des jeunes pour la citoyenneté et la démocratie.
Le dialogue n'est jamais assez et les efforts qui sont certes faits, on le voit, mais je pense qu'il faut encore les demander de redoubler d'efforts. Tant les partis politiques aussi jouent un rôle extrêmement important dans le jeu démocratique. Les réformes, les assises qui s'annoncent, tout le monde doit passer. Donc il est important que quels qu'en soient les efforts que ministre qui redouble encore d'efforts.
Notons que la Synergie Vendée a affirmé sa pleine participation aux assises nationales de la refondation et demande qu'un chronogramme électoral soit vite élaboré.
Autre sujet, comment mettre en place des stratégies pour la réouverture des écoles fermées à cause de l'insécurité dans la région de Ségou. La question était au centre des discussions vendredi dernier autour d'un cadre de concertation des acteurs et partenaires scolaires. La rencontre avait pour objectif d'analyser les causes de l'insécurité en milieu scolaire et universitaire dans la région. À l'issue de la réunion, des recommandations pertinentes ont été formulées. Les détails avec notre correspondant à Ségou, Mohamed Sissé.
La gestion de l'école en mode décentralisé est confrontée à de nombreuses difficultés, regrettent les responsables scolaires. Il s'agissait au cours de cette rencontre de deux jours de prendre des mesures idoines afin de pallier ces difficultés. Itous Ahmed Ag Iknan, directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou.
De nombreuses difficultés demeurent dans la gestion de l'école en mode décentralisé. Il s'agit entre autres des grèves récurrentes des enseignants et les débrayages intempestifs des élèves. L'insécurité qui entraîne la fermeture des écoles et le déplacement massif des populations. Face à ces nombreuses difficultés, une réflexion prospective s'impose.
Nous espérons la réouverture des écoles fermées dans la région après cette rencontre, a déclaré Safiatou Guindo, présidente du comité de gestion du groupe scolaire Bagadazi Sud de Ségou.
J'espère bien que ça sera une occasion que les gens prennent conscience que l'avenir d'un pays dépend de son éducation. Donc ça sera une occasion pour permettre à l'école de se réouvrir. C'est notre grand souhait.
Il faut rappeler que cette année, 13 172 élèves sont privés de leur droit à l'éducation dans plus de 95 écoles fermées dans la région de Ségou. De Ségou, Mohamed Sissé pour Studio Tamani.
La section syndicale du commerce a entamé ce matin une grève de 5 jours. Elle réclame 16 points de revendication, dont le transfert de la gestion du programme de vérification des importations au ministère du commerce, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des agents de la direction générale du commerce et de la concurrence. Seydou Fane est le secrétaire général adjoint de la section syndicale du commerce.
Nous avions demandé le transfert de la gestion du programme de vérification des importations au ministère du Commerce. Le gouvernement a trouvé que c'était juste et a donné son accord. Malgré cet accord, le gouvernement s'entête à continuer à faire régir les textes qui régissent le programme de vérification des importations au niveau du ministère des Finances. Lorsque vous prenez le programme de vérification des importations, il s'agit là de quoi? De vérifier tous les produits qui sont importés à destination du Mali. Si vous partez dans tous les pays du monde, vous constaterez que ce programme-là est géré par le commerce. Et cela ne nécessite même pas un seul coup, tout le monde le sait, la vie chère. Tous les jours, les agences se déplacent. C'est l'ensemble des marchés du Mali à l'intérieur comme à Bamako pour pouvoir surveiller, n'est-ce pas, les prix des produits de première nécessité. Donc nous estimons qu'on ne va pas continuer à se faire insulter par la population parce qu'on ne fait pas notre travail alors qu'on ne donne pas les moyens de faire correctement ce travail.
Sur le même sujet, le syndicat des banques et établissements financiers du Mali entame ce mardi 23 novembre 2021 une grève de 72 heures. Après une série d'arrêts de travail en fin octobre, le SINABEF exige un consensus sur les 3 points de revendication, notamment l'augmentation de salaire de 15% au patronat. Selon les responsables du SINABEF, si leurs doléances ne sont pas satisfaites, cette grève sera reconduite et sans assurer le service minimum. Toutefois, ils appellent leurs clients à comprendre le bien fondé de cette lutte. Je l'annonçais dans les titres, à Yorosso, l'insécurité a fortement impacté la foire hebdomadaire qui se tient tous les dimanches dans la ville. Alors que ce marché drainait du monde il y a quelques années, aujourd'hui ce rendez-vous commercial est boudé par plusieurs localités. Conséquence, les denrées de première nécessité sont devenues rares et chères. Les caisses de la mairie en ont également payé le prix fort. Le reportage de notre envoyé spécial à Yorosso, Mohamed Ali Ag Aleda.
L'affluence n'est pas très grande dans la foire hebdomadaire de Yorosso ce dimanche. C'est d'ailleurs le cas depuis quelques temps maintenant à cause de l'insécurité. Ici, des clients rencontrés se plaignent de la cherté des produits.
Huile, sucre, farine, tout ça là c'est trop cher. On veut que le gouvernement nous aide parce que les sous sont vraiment compliqués en ce moment.
J'ai une chèvre ici à 35 000, je n'ai pas trouvé.
Les forains expliquent cette cherté par l'insécurité qui rend difficile l'approvisionnement des foires.
Pour cette année, c'est encore compliqué. compliqué. Sinon, l'an passé, on achetait les kilos du maïs à 75 francs, voire 100 francs parfois. Or, cette année, on le vend déjà à 150 francs le kilogramme. Beaucoup veulent amener des bétails au marché, mais ils ont peur à cause de l'insécurité.
Les autorités communales, même si elles ne donnent pas de chiffres, affirment que cette situation a négativement impacté les recettes de la collectivité. Abdoulaye Goïta, maire de la commune de Yorous.
Ce qu'on doit produire pour vendre, cela n'est pas vraiment disponible, faute de l'insécurité. Donc, obligatoirement, ça va impacter négativement les résultats de ce qu'on doit avoir par commune et par village.
Les populations demandent aux autorités des solutions rapides et durables à cette situation qui se dégrade de plus en plus. Mohamed Ali Agalaïda de Yoroso pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Le prix du mil est en hausse dans les marchés de Dialassagou, Koulogan et Bankas. Le sac de 100 kg vendu à 11 000 francs CFA l'an dernier, à la même période, est aujourd'hui cédé à 21 000 francs CFA. Selon le chef secteur de Bankas, cette situation s'explique par le manque de pluie en fin d'hivernage et la destruction de certains champs par les oiseaux. Les populations demandent l'implication des autorités pour faire baisser les prix. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. Les journées minières et pétrolières du Mali ont pris fin la semaine dernière à Bamako. À la faveur de ces rencontres, Studio Tamani s'est intéressé à savoir quelles sont les ressources que regorge le sous-sol malien. Directeur général d'une société d'expertise et d'études minières au Mali, Mahamadou Touré affirme que le sous-sol malien est riche en ressources minières. Toutefois, il affirme que le pays a du pain sur la planche quant à leur exploitation. Il répond aux questions de Elisabeth Wallet Mohamed.
Bon, en fait, quand tu regardes la zone ouest-africaine en général, c'est une zone qui est quand même riche. Aujourd'hui, bon, tout le monde connaît l'or, tout le monde connaît le potentiel aurifère du Mali. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'autres commodités qu'on peut trouver au Mali, en passant par le calcaire, le lithium, le pétrole, peut-être les diamants. Il y a un grand potentiel, mais il faut que ça soit prouvé quoi, par la recherche.
Et jusque-là, qu'avons-nous découvert dans le sous-sol malien?
De la position du Mali en termes d'or. Bon, on sait que récemment, il y a le projet de lithium qui est à Bougouni, dont on a parlé récemment, tout de suite. Donc, il y a du calcaire, il y a aussi de la bauxite. Tout ça peut contribuer effectivement à amorcer une phase de développement.
Que prévoit l'État malien par rapport à ces ressources-là?
Bon, en effet, si tu regardes la diversification, permettrait en fait à l'État d'être plus grand exportateur de d'autres commodités. Parce qu'aujourd'hui, on exporte l'or. Mais demain, si on commence à produire du lithium, c'est extrêmement demandé pour les énergies propres. Peut-être exportateur de d'autres commodités aussi. Aujourd'hui, on importe du clinker, mais on a beaucoup de calcaire. On peut transformer aussi et exporter du clinker. Donc, la diversification permettra effectivement de se positionner, d'intégrer les mines à l'économie.
Y a-t-il des difficultés liées à l'extraction de ces ressources?
Il y a probablement des contraintes de sécurité parce que toutes les parties ne sont pas accessibles sur un plan sécuritaire. Mais il peut y avoir des difficultés liées au financement. Donc la plupart des projets doivent aussi passer par effectivement une phase où les études sont proprement faites, où effectivement on passe de l'exploration à des projets avancés et on étudie, on s'assure qu'effectivement les projets et les flux de revenus potentiels des projets sont parfaitement maîtrisés. En ce moment, le financement deviendra accessible.
Que préconisez-vous comme solution?
Bon, l'une des solutions, c'est déjà s'assurer qu'on a suffisamment de talents. On finance non seulement la recherche, tout en sachant que c'est une activité risquée. Maintenant, une fois on arrive à découvrir un gisement, en ce moment, on passe par les bancs des experts qui vont étudier le projet, qui vont planifier le projet, qui vont aussi s'assurer de la solidité des flux de revenus futurs du projet. Et à partir de là, des études de sensibilité peuvent être aussi faites pour vérifier si le prix des commodités change, comment le projet projet se comporte, sur la base de tout cela, on peut effectivement réduire les risques sur les projets.